Je suis Florence Quilliot, je suis responsable du service de production et d'innovation numérique du pôle santé de l'Université de Nantes. Donc voilà, le service de production d'innovation numérique est un service qui dépend de la direction des systèmes d'information de l'Université de Nantes. Et nous sommes une équipe de 5 personnes rattachées au pôle santé. Donc en ce qui me concerne, je travaille beaucoup sur la partie gouvernance avec les doyens du pôle santé et les responsables administratifs et les enseignants. Et donc on est amené à accompagner des projets. On a une personne dans l'équipe qui est dédiée au projet numérique de formation continue, qui est Estelle, et qui donc travaille en étroite collaboration avec le service de formation continue du pôle. Nous avons une autre personne qui a le même profil qu'Estelle, qui travaille plutôt sur les projets de formation initiale, et nous avons 2 personnes qui travaillent plutôt sur la production de ressources. Donc on est amené en termes d'activité à administrer les plateformes pédagogiques. Donc on utilise beaucoup Moodle à l'Université de Nantes. On utilise aussi CIDES et CIDES-NG. On est donc administrateurs locaux pour ces plateformes. On fait du conseil pour le déploiement de solutions e-learning, de l'étude de la conception. On a un petit studio de production e-learning qui permet aux enseignants de venir s'enregistrer. Donc on a mis en place ce petit studio en 2014. On fait de l'hébergement, on produit des environnements graphiques puisque dans l'équipe de production, on a une infographiste qui fait aussi du motion design. Et donc on assure la veille technologique et des formations aux enseignants, notamment à CIDES, Moodle et récemment au nouveau cloud de l'université. Donc à notre actif, on produit aujourd'hui environ 200 vidéos pédagogiques par an. Donc un travail en collaboration avec les services de formation continue. Et puis on a en cours 22 projets pour 2019 de différents types, comme vous voyez, des projets de MOOC, des dispositifs hybrides, dont des classes inversées. Et puis quelques dispositifs 100% à distance, je vous montrerai une de nos réalisations en cours. Donc les enjeux, si on reprend vraiment le niveau macro, l'étude du CREDOC, c'est celle de 2017, disait que on avait quand même une tendance d'usage du numérique dans des usages privés qui s'étendait énormément, puisqu'on a 73% des Français qui ont un smartphone, 80% au moins un ordinateur à domicile, et 44% une tablette numérique, et avec une forte progression des usages des réseaux sociaux. Et puis, une progression nette aussi du sentiment de compétence numérique selon l'âge et le support utilisé. Donc, on voit une progression de 12 points par rapport à 2013, avec une tendance, vous voyez, bien marquée entre 18 et 39 ans. Mais on a quand même majoritairement des gens qui se sentent à l'aise avec les outils. Ça progresse. Donc on constate sur le plan personnel qu'on prend l'habitude d'apprendre des choses à la maison, on se forme en autonomie pour des choses privées, on va voir sur YouTube, on trouve des tutoriels, ça devient vraiment un réflexe pour beaucoup de gens. Et puis ben, les MOOC qui se sont beaucoup développés, on y a accès gratuitement, on peut se former facilement depuis chez soi. Et puis globalement sur la formation, la formation la plus professionnelle, on remarque des grandes tendances. C'est une tendance à l'hybridation de la formation, donc avec des séquences à distance, des séquences en présentiel. La construction de communautés d'apprentissage avec le social learning. Et puis on tend vers des solutions d'apprentissage adaptatives. Grâce à l'intelligence artificielle, aux statistiques, on va permettre de construire des programmes personnalisés en fonction de ce que les gens ont fait précédemment. Et puis les jeux sérieux et la réalité virtuelle qui sont de plus en plus utilisés également. Donc je vous invite à, je transmettrai mon support, je vous invite à regarder cet article des Échos qui date déjà de l'année dernière, de 2018, mais qui explique bien tous ces éléments-là dans un petit texte. Donc c'est pas très long à lire. Alors les enjeux de la formation en ligne, Ben, là, on se recentre vraiment sur, sur notre public. C'est vraiment de former un public empêché, peu disponible. C'est de former des gens nombreux. C'est de respecter un rythme d'apprentissage individuel. Donc, c'est aussi les enjeux de l'apprentissage adaptatif, puisque on est sur le respect du rythme. C'est aussi de permettre aux gens d'avoir des modalités différentes en fonction de leur profil. Certains vont préférer regarder de la vidéo, d'autres vont préférer imprimer un document et le travailler en le surlignant. Donc tout ça aussi, c'est une tendance d'avoir une offre qui se développe avec plusieurs modalités. Donc créer et conserver un lien social dans la formation, parce qu'on a souvent dit que le e-learning, les gens étaient seuls, ils travaillent en autonomie, mais ils travaillent un peu seuls. Aujourd'hui, on met en place des systèmes qui nous permettent de recréer ce lien par le biais de forums, des communautés d'apprenants, et puis aussi le lien avec les enseignants à distance. Donc la formation adaptative, j'en ai parlé. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir suivre la progression individuelle des participants au fil de l'eau. Et on sait que c'est important aussi sur le plan administratif de pouvoir savoir où les gens en sont, ce qu'ils ont fait en ligne, etc. Donc au niveau de l'environnement d'apprentissage, on va faire des choix en termes de plateforme de formation. Ça va être une ou plusieurs. Pas forcément une seule, mais si on utilise des outils de classe virtuelle, par exemple, en complément de la formation e-learning complètement à distance, on peut avoir besoin de plusieurs outils. Il faut bien définir les types de ressources qu'on va utiliser, et c'est vrai qu'on a beaucoup recours à la vidéo, mais la vidéo, il faut l'utiliser comme un moyen pour faire des démonstrations, pour montrer des choses, ça ne remplace pas pour autant des séquences en présence et des manipulations qu'on peut faire dans une salle. Donc il faut bien choisir les ressources et les modalités d'entraînement aussi à distance. Est-ce qu'on utilise du QCM ? Est-ce qu'on propose des devoirs à rendre à distance ? Donc finalement, la typologie des ressources, c'est aussi ce qu'on va définir sur une séance en présentiel. Donc, il faut juste l'adapter au fait qu'on soit à distance. Et puis, bien, si on est sur de la formation hybride, bien prévoir l'articulation pour les enseignants, mais aussi pour les apprenants, entre les séquences de formation qui vont être en présentiel et les ressources qui vont être disponibles à distance. Qu'ils aient bien une vision claire des consignes de travail, de leur planning et puis des modalités d'évaluation qu'on leur met à disposition, auto-évaluation ou bien évaluation en fin de formation et les moyens de soutenir leur activité en ligne. Donc une situation d'apprentissage, là ça reste vrai, ce que je vous montre là, ça reste vrai pour de la formation à distance mais aussi sur la formation présentielle. On va avoir, ça c'est un document canadien, l'apprenant va se mettre dans une situation d'apprentissage s'il a les moyens de bien se préparer, de savoir comment il va réaliser ce qu'il a à faire et puis ce qu'il va pouvoir réutiliser ensuite dans un contexte professionnel. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo, on ne va pas prendre le temps de la regarder maintenant, mais de Janie Lamoureux qui explique l'anatomie d'une bonne situation d'apprentissage, qui n'est pas très très longue, qui est intéressante. Alors en ce qui nous concerne, on a créé un petit guide qui permet en fait de recenser les règles de l'ergonomie cognitive. Donc, je pourrais vous montrer ce petit guide si on en a le temps. Ça vous intéresse, je vous le montre. Voilà. Donc, l'idée, alors ça, c'est un guide en PDF hein, qu'on distribue. Donc, c'est pas fait pour être lu à l'écran, mais... Donc on a repris les 10 règles, en fait, Je remercie Émilie qui a travaillé sur ce document. Donc, on a défini 10 règles, ce n'est pas nous qui les avons définies, c'est professeur Scapin. Donc, on a une première règle, c'est de permettre aux gens de se pré-entraîner. C'est en fait de rester engagé dans l'apprentissage. C'est d'être guidé dans l'apprentissage. C'est d'avoir un contenu qui reste homogène pour qu'on puisse se repérer systématiquement. C'est un peu la même règle que le guidage. La segmentation des contenus, leur lisibilité, j'accélère, l'association texte-image, le signalement, donc attirer l'attention sur les points clés. Donc toutes ces règles s'appliquent à tout document multimédia, donc respecter la cohérence, l'utilisation de la voix. Donc, en utilisant un style plutôt conversationnel lorsqu'on produit une ressource en ligne. Et donc, l'idée, c'est de distribuer ce document à nos enseignants pour qu'ils commencent à préparer leur document, leur storyboard. Et nous, ensuite, on remanipule ces outils-là pour préparer leur enregistrement. Donc... Juste, j'étais arrivée là. Donc, on est dans une démarche en mode projet. Alors, il y a plusieurs méthodes qui existent et qui sont déjà utilisées dans nos universités. Alors, la méthode ADDI, qui est la méthode la plus traditionnelle et qui ressemble vraiment à une méthode de gestion de projet. Et on a une méthode SAM2 qui, elle, est plutôt basée sur une méthode agile en termes de production. Donc on définit le contexte, on fait un prototype, on l'expérimente et on évolue au fil de l'eau sur la production des ressources. Donc des moyens humains, des moyens techniques et des moyens organisationnels à prévoir. Et puis différents livrables. Donc de l'analyse de la demande, c'est-à-dire la constitution, l'étude du contexte, l'étude de faisabilité, le scénario pédagogique, des storyboards qui vont être fournis par les enseignants. Et puis on va jusqu'à la production d'un petit kit d'accueil pour les participants à la formation. Et bien sûr, on évalue le dispositif. Donc, un exemple de planning de mise en œuvre, vous voyez, sur une formation sur laquelle on est en train de travailler. Alors, au niveau des choix techniques, on a récemment acquis un petit studio mobile qui s'appelle Rapid MOOC. Alors, ce n'est pas fait que pour faire des MOOC, on l'utilise avec des étudiants et avec des enseignants pour produire en direct, vous voyez, de la vidéo incrustée. Et cet outil, on l'a acquis très récemment. C'est une évolution par rapport à notre studio actuel. Donc, ça se passe comme ça, au niveau de l'enregistrement. Et donc, je vous propose, est-ce qu'on a le temps de voir un dispositif? Oui? Oui? Alors, voilà. Je vais vous montrer le DU de médecine polyvalente hospitalière. Donc, c'est un DU qui est ouvert maintenant depuis 3 ans, qui est porté par 3 universités, Lyon, Paris 13 et Nantes. Donc, nous sommes l'opérateur technique à Nantes. Donc, on héberge la solution sur notre plateforme ExtraDoc, qui est une plateforme Moodle. Et donc, vous voyez, l'enseignement est complètement à distance. On a pour l'instant un examen final qui est en présentiel. Et 30 modules de e-learning, 104 cours en ligne. On a systématiquement pour chaque cours la possibilité on donne la possibilité systématiquement de donner à nos apprenants la possibilité de se tester sur leurs connaissances avant le cours. Et ils ont des contrôles continus. La formation est déclinée en fait en 2 ans. Ils ont des nouveaux modules qui arrivent tous les 15 jours. Et donc, pour la mise en œuvre, on a travaillé avec 50 enseignants au plan national. C'est porté par le Collège de médecine interne. On a 80 tuteurs et on demande aux participants de produire des récits cliniques qui sont rédigés et puis validés par nos tuteurs. Donc, 3 promotions. Donc, 70 diplômés à Lyon en 2018. Et puis, on a 2 sessions en cours à Paris. Ils sont en deuxième année. Et puis, à Nantes, on a ouvert au mois de novembre. Donc, je vais vous montrer rapidement la formation. Alors, j'avais prévu 2 formations. Donc, vous voyez là, c'est le DU de médecine polyvalente version Nantes. On a la même version pour Lyon et pour Paris 13, qui est sur notre plateforme. On a donc un espace avec les informations administratives. Et vous voyez un espace par unité d'enseignement qui ouvre au fil de l'eau. Donc, on voit qu'on a cette semaine ouvert la dermatologie. Et donc, reste à ouvrir encore 3 modules cette année. Donc, si on va voir le fonctionnement dans une unité d'enseignement, les étudiants ont accès à un planning. Alors, je suis désolée, ce n'est pas très lisible, mais pour moi, c'est plus facile sur l'écran. Donc, ils ont un petit programme à suivre avec des cours qui sont distribués tous les 15 jours. Et donc, pour chaque cours, ils peuvent contacter les intervenants. Ils ont un pré-test pour évaluer leurs connaissances avant de commencer. Un cours en ligne sous forme de diaporama sonorisé. On est en train de revoir au fil de l'eau les modèles de cours qui ont été distribués. Voilà. Et donc, je suis allée un peu vite, excusez-moi. Et donc, chaque... Tous les 15 jours, ils vont avoir des contrôles continus à réaliser en ligne, qui comptent pour 50% de l'évaluation finale. Et ils ont un examen final à l'issue des 2 ans. Voilà. Donc avec des post-tests, donc qui sont plutôt au format QCM, un dossier progressif, et une situation clinique de type TCS. Et donc, on évalue à chaque fois cette partie de formation, ce qui nous permet d'avoir un retour direct et de pouvoir retravailler nos contenus au fil de l'eau. Voilà.
Bonjour à tous. Je remercie Dominique Best qui rend cette journée compliqué, encore un peu plus compliqué, mais c'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui. Néanmoins, pour vous parler de l'expérience que nous avons à Lille de l'e-learning. Donc, je m'appelle Eric Achula et je suis professeur de médecine interne à la faculté de Lille. Et nous avons créé, c'était dans les années 2000, je me souviens d'une première discussion avec Michel Debande, dans le cadre du CRI, du club rhumatisme et inflammation. On se disait que ce club, qui associe des internistes et des rhumatologues, devait avoir une mission pédagogique de formation médicale. Et on s'est dit à ce moment-là, mais pourquoi pas par Internet? Et c'est comme ça qu'est né le premier diplôme interuniversitaire en médecine, totalement sur Internet, avec validation des cours sur Internet. Ça a été un gros travail initial parce que je peux vous dire que notre CFVU n'était pas tout à fait d'accord avec une évaluation initiale par Internet et il y a eu des allers-retours assez nombreux. Et donc je vais vous raconter cette histoire qui a commencé dans les années 2000 par donc un diplôme sur un sujet qui paraît ardu quand même, polyarthrite et maladies systémiques, bon, validé à l'époque par le Conseil de l'Ordre avec différentes facultés qui associent Montpellier, Lille, Paris, Strasbourg. Cet enseignement a défini des objectifs qui sont des objectifs assez pointus, les rhumatismes inflammatoires et maladies systémiques, acquérir des méthodes diagnostiques, d'utilisation des examens complémentaires, de stratégies thérapeutiques. Et on a défini un contenu qui est homogène, comme vous le disiez. On a gardé cette homogénéité pour tous nos enseignements, c'est-à-dire que vous le verrez tout à l'heure, une structuration très précise. Les conditions d'inscription, on a souhaité ouvrir ça aux médecins français et étrangers parce qu'il y a une forte demande en francophonie. Les étudiants aussi inscrits en DES, les étudiants résidents. Et l'organisation, eh bien, chaque cours est pour ce premier diplôme interuniversitaire, 31 modules sont mis en ligne et chaque cours correspond à une semaine de cours, à peu près 4 heures de formation personnelle. Et toutes les semaines, il y a un nouveau cours qui est mis en ligne, mais pour accéder à ce cours, l'étudiant doit valider 4 QCM qui vont compter pour 30% de la note finale, avec un examen final donc fait sur le web. Chaque cours est structuré de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a un document qui est un document PDF, qui est une mise au point avec des règles strictes, vous le verrez tout à l'heure. Il y a 2 cas cliniques interactifs et vous verrez la façon dont on a structuré ces cas cliniques. Il y a 8 QCM basés sur des petites vignettes, 4 QCM qui sont utilisés pour valider le module hebdomadaire et 4 QCM qui sont mis dans la banque pour l'examen final. Et nous avons une bibliothèque d'images. Donc tous les modules sont structurés de cette manière-là. Par exemple, pour la mise au point ici sur l'amylose A, il y a les auteurs, et il y a des objectifs pédagogiques, il y a le cours et les points forts à la fin. C'est bien classique. Un exemple de cas clinique interactif qui, quand l'étudiant a travaillé sur le cours, permet de tester ses compétences, ses connaissances par rapport à ce cours, basé sur une petite vignette. Tout ça avec une série de QCM. Habituellement, des QCM simples, une réponse bonne pour 4 réponses fausses. Et l'étudiant peut tester sa connaissance, il peut faire des allers-retours parce que lorsqu'il a fait son choix, il a les réponses qui apparaissent. Pas toutes les réponses, mais les réponses qu'il a cochées. Et il sait s'il a bien répondu et pourquoi, et s'il n'a pas bien répondu et pourquoi. Donc il y a un commentaire apporté, exigé pour chaque item. Ça permet à l'étudiant de revenir et de recommencer s'il le veut, autant de fois qu'il veut pour avoir un score total de 100% final. Mais pour ces cas cliniques, c'est juste l'entraînement. Ceci ne compte pas dans la note finale. Ce qui compte dans la note finale, c'est une série de 4 QCM pour chaque module, dont voici un exemple basé sur une petite vignette avec donc une réflexion autour de cette vignette et un QCM à 5 items avec un seul choix vrai, en principe. Venez ensuite l'examen final. Et c'est là que ça a bloqué avec nos instances parce que au départ, il n'a pas été souhaité par notre université que l'examen se fasse entièrement sur Internet. Et la première année, on a dû le faire en présentiel. Mais l'année suivante, nous sommes retournés voir notre université, notre CVU à l'époque, avec quelques arguments et puis avec la constitution d'une charte que vous voyez, qui engage que celui qui la signe, comme toujours. Mais lorsque l'étudiant se connecte avec ses propres codes pour l'examen final, il est tout d'abord informé de l'horaire précis. Et quand il se connecte, l'étudiant a une heure de délai pour se connecter et pour faire son examen qui dure en général une heure. Donc il n'a pas besoin d'être là à midi pile. S'il arrive à midi 20, il aura une heure, de midi 20 à 13h20 par exemple. Et il signe cette charte qui dit vous allez passer l'examen final du DU, d'approfondissement des connaissances sur les polyarthrites. Dans la mesure où cet examen est en ligne, nous comptons sur votre honnêteté, votre professionnalisme, afin de nous confirmer que vous êtes bien la personne inscrite sur le diplôme et que vous n'allez pas utiliser des documents, livres, notes personnelles durant cet examen, incluant l'aide d'un collègue. Toute information qui nous démontrerait le contraire témoignerait d'un profond irrespect de vos valeurs professionnelles et nous conduirait à ne pas valider votre examen et vous conduirait à être exclu de toute inscription à notre DU, etc. Nom, prénom, né, je certifie que, je signe, je cache, je coche la case finale. Et puis, après avoir signé cet engagement, il peut commencer son examen qui va durer une heure. Nous faisons en général 45 QCM pour 60 minutes. Et des QCM qui sont d'un étudiant à l'autre présentés dans un ordre différent. pour éviter qu'ils trichent ensemble. Ça nous est arrivé la première année. C'est-à-dire que la première année, on a eu une série de, par paquet de 5 ou de 10 étudiants qui avaient strictement la même note. Et en fait, ils travaillaient ensemble, ils s'étaient réunis ensemble, et puis ils passaient l'examen ensemble, et puis ils répondaient la même chose. Et donc, on a trouvé ça un petit peu bizarre, et on a compris pourquoi assez rapidement. Et donc, ce qui fait que l'année suivante, eh bien, on a mis l'ordre de passage des questions de l'examen variable d'un étudiant à l'autre. Comme ça, il n'y avait plus de tricherie possible. Après, la tricherie, entre guillemets, allez voir dans ces documents, allez voir sur Internet. Moi, je ne suis pas contre. Vous, peut-être, probablement non plus. Ça fait partie du jeu d'aller se renseigner sur Internet. C'est comme ça qu'on travaille maintenant. Le tout, c'est d'avoir le temps de le faire. Parce que 45 QCM avec une vignette clinique qui amène une réflexion, je peux vous dire que 60 minutes, c'est vite consommé. Ça, c'était notre premier diplôme. Et je vous présente là l'évaluation 2017-2018. Donc ce diplôme, maintenant, il fonctionne depuis maintenant 17 ans. Et il reste constant sur le plan des inscriptions. Tous les ans, on a entre 150 et 200 inscrits. Frédéric Lyoté, qui est devant, participe à cet enseignement et sait que c'est un grand succès. Voilà l'évaluation sur l'année 2017-2018 des 162 inscrits. Nous avons donc les quatre facultés, Lille, Strasbourg, Paris, Montpellier. Alors Lille est toujours un petit peu porteur parce qu'il était à l'origine de la création initiale. Et puis peut-être les prix sont un petit peu moins chers chez nous. C'est peut-être ce qui fait que, ouais, qu'il y a un petit peu plus d'inscrits sur Lille. Et donc, on était intéressé de voir que c'est à peu près moitié-moitié de médecins en exercice et la moitié d'internes qui suivent cette formation. L'âge moyen est de 32 ans. Que c'est surtout des médecins hospitaliers dans 84% des cas, mais il y a un peu de médecins de ville aussi, 9% des cas. La répartition par fonction, ce sont des internistes, beaucoup, un tiers, des rhumatologues qui sont un peu moins nombreux, mais ça c'est des pratiquants qui sont en formation médicale continue, en deuxième cycle des 2S de rhumatologie, des 2S de médecine interne, et remarquez aussi des médecins généralistes pour 15% d'entre eux. Ce qui nous a beaucoup, beaucoup surpris, les médecins généralistes sont friands de formation par Internet. Vous connaissez leur planning et leur agenda complexe en journée. Eh bien, ils se connectent le soir, la nuit, les week-ends, pendant les vacances, et étaient ravis d'avoir une formation en ligne. À l'époque, il y en avait très, très peu. Maintenant, il y en a de plus en plus, et c'est bien. Mais ce capital de médecins généralistes reste constant d'une année sur l'autre, donc à peu près 15% qui se forment sur ces maladies un peu complexes et un peu plus rares que la pratique courante. L'origine géographique est intéressante, évidemment, parce que c'est grâce à l'examen en ligne qu'on peut capter cette population-là, qui ne pourra pas se déplacer pour l'examen présentiel s'il devait être présentiel obligatoirement. Vous voyez qu'on a 70% de France, mais 30% hors de France. Le Maroc, très demandeur, Tunisie, très demandeur, la Suisse, un peu moins. On a le Libanais, Belgique, vous voyez, un peu en Afrique noire aussi, et DomTom. Donc ça, je pense que l'outil e-learning est fantastique pour ça. C'est atteindre la francophonie. Et nous utilisons notre département de communication internationale dans notre université pour faire connaître cet enseignement. Les objectifs, valoriser votre activité, acquisition de nouvelles connaissances, perfectionnement des connaissances, bien sûr, ça c'est bien classique. Comment estimez-vous votre connaissance sur le sujet avant la FMC 5.94 et en sortant, c'est plutôt autour de 9, donc c'est bien. Chaque cours est évalué. Alors chaque enseignant est aussi évalué de ce fait, et c'est bien normal. Vous voyez que j'en ai pris un au hasard, qui est la maladie de style de l'adulte, qui donne une satisfaction globale de 8.19 sur 10. J'ai bien apprécié ce cours, c'est des EVA, 8.45. J'ai acquis de nouvelles connaissances, ça a modifié ma pratique, c'est de 95. Ça a un impact sur la prise en charge du patient, même si c'est une maladie rare, mais... Donc incontestablement oui, avec des commentaires très bons, bien organisés, clairs, synthétiques, très intéressants, très bons cours, etc. Passionnant, super comme toujours, c'est toujours sympathique. Et puis on s'est dit, comme ça marche, on va en faire d'autres. Et donc on en a fait d'autres et on a fait, il y a quelques années, immunothérapie ciblée dans les maladies inflammatoires et auto-immunes en se disant, il n'y a pas que les internistes, les médecins rhumatologues qui utilisent des biothérapies, il y a aussi des neurologues, des dermatologues, des gastro-entérologues, etc. Et on s'est dit, on va les mettre avec nous et on va, des pédiatres aussi bien entendu, et on va créer un diplôme sur le même format. sur les biothérapies avec toutes les universités, comme vous le voyez, qui vont de Montpellier à Strasbourg. On en a créé un autre avec Patrick Didier ici dans la salle pour les médecins généralistes. Cette expérience est très intéressante. Le précédent, on a à peu près 50 inscrits par an sur les biothérapies. Le diplôme sur les médecins généralistes est intéressant parce que ça a été un long travail et un long cheminement. Au départ, on avait fait un enseignement sur 2 ans et il avait du mal à décoller. On avait peu d'inscrits, une quinzaine, une vingtaine. Et puis, on s'est dit, mais on a eu tort de ne pas faire participer le collège des enseignants de médecine générale. Et on a eu effectivement bien tort de ne pas le faire participer. Et on a prévu, on a proposé un partenariat avec ce collège des enseignants de médecine générale. Et les spécialistes de médecine générale sont venus avec nous, ont été intéressés par l'outil et le projet, et on a construit les cours en partenariat avec eux. Et pour chaque cours, il y a un spécialiste d'organes et un spécialiste de médecine générale pour apporter ses conseils et puis évaluer si ça correspond bien à ce qu'attendent les médecins de ville, c'est-à-dire la prise en charge en soins primaires. Et ce partenariat est vraiment très 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 apprécié de la part de nos enseignants de médecine général qui participent à cet enseignement et de la part des enseignants de spécialité qui sont quelquefois trop dans le faisceau droit de, etc., de la corde de je sais pas quoi, qui sont donc trop, trop hyper spécialisés. Et cette année, nous avons 55 inscrits et je dois dire que Michel Cunin et Marc Bayen à Lille ont été des grands acteurs pour ce diplôme. Je les remercie. Donc on a fait appel à eux, bien sûr. Ça, c'est pour vous expliquer que la structuration de l'enseignement du DU de médecine générale est un petit peu différente des autres. C'est-à-dire que Marc Bayen a souhaité, pour chaque cours, faire des pré-tests et des post-tests, des pré-situations et des post-situations. C'est-à-dire que s'il y a un cours, par exemple, sur le diabète, eh bien, il évalue la connaissance sur le sujet du diabète préalablement au cours par un lien qui est adressé à l'enseignant. Et il doit donc remplir un template avec une histoire clinique d'un patient qu'il rencontre et expliquer comment il prend en charge. Ensuite, il a le cours et puis il a ensuite une deuxième situation après le cours où il va revoir un autre patient diabétique et il a une série de questions pour lui demander si ça a modifié son activité quotidienne et la prise en charge de son patient, le fait d'avoir suivi le cours sur le diabète. On s'est rendu compte aussi que dans cet enseignement qui se fait maintenant sur 1 an et qui a, ils ont tous à peu près une trentaine de modules, donc sur 30 semaines, il y a des stars et des cours qui plaisent beaucoup plus que d'autres et on en a sélectionné 4, notamment la migraine qui me vient en tête et 4 au total pour faire de la DPC. Et nous avons ainsi, grâce à ce DU, aussi la possibilité de faire une validation en DPC avec des modules plus attractifs. On a continué à travailler sur ces diplômes internet et la Fondation Maladies Rares est venue me voir. Alors je coordonne un centre de référence maladies rares et les maladies rares m'intéressent beaucoup, auto-immunes, auto-inflammatoires. Et avec la Fondation Maladies Rares, on s'est dit construisons à peu près sur le même modèle, mais un petit peu différemment, un DU autour des maladies rares, alors qui est assez pointu. Qui ne va pas décliner les maladies rares, mais qui va expliquer comment on peut faire de la recherche et prendre en charge et structurer la prise en charge des patients atteints de maladies rares en France. C'est un diplôme qui se fait de façon mixte. Il a 2 modules qui sont présentiels, les 2 premiers, un à Lyon, un à Marseille, ou un à Lille, et on fait ça en alternance une année sur 2. Et puis ensuite, les étudiants doivent choisir 4 modules parmi les 9 sur des thématiques très pointues. Vous voyez, système d'information pour les maladies rares, biotechnologie, bioinformatique, base réglementaire, preuve de concept, innovation, potentiel, stratégie, éthique, etc. Alors c'est un diplôme un peu plus confidentiel qu'on fait en partenariat avec l'Université de Strasbourg. C'est Strasbourg là qui nous héberge et qui, grâce à ses classes virtuelles, gère ce diplôme. Lille est partenaire, Marseille est partenaire, Lyon est partenaire. Donc c'est aussi un diplôme interuniversitaire. Là, c'est un peu plus confidentiel. On a 20 d'inscrits cette année. Vous voyez que le coût, ma foi, est raisonnable. Bon, c'est un peu plus cher que les autres diplômes parce que pour pouvoir payer le versant technique sur Strasbourg, il faut au minimum 15 inscrits. Si on n'a pas 15 inscrits, ils ne peuvent pas ouvrir. La balance financière est négative. Je coordonne une filière de santé, une des filières de santé maladies rares, qui est la filière FAI2R des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. Cette filière rassemble 19 centres de référence, une soixantaine de centres de compétences et a un financement avec des missions précises, des missions qui sont des missions de formation, d'information et d'aide à la prise en charge des patients. Et nous avons développé depuis maintenant un an et demi des réunions de concertation pluridisciplinaire. Ces réunions de concertation pluridisciplinaire se font grâce à un outil qui s'appelle CISRA, qu'utilisent les cancérologues, qui permet aux experts sélectionnés pour discuter les cas en fonction des thématiques de se connecter par Internet, d'avoir accès donc à l'écran de celui qui présente le cas clinique qui est dans son hôpital, qui permet de discuter le cas clinique et éventuellement de dérouler le scanner thoracique, le scanner abdominal. On peut donc partager les écrans. Cette RCP a lieu tous les mardis à 13h30 avec une rotation et avec des thèmes qui sont les thèmes de notre filière, c'est-à-dire qu'on a toutes les 5 semaines une RCP sur le lupus, une sur les vascularites, sur la sclérodermie, en alternance, maladies auto-inflammatoires, myopathie inflammatoire, amylose et des RCP de pédiatrie. Et nous nous sommes rendus compte que c'était des RCP extrêmement formatrices et intéressantes pour homogénéiser les pratiques et que ça permettait de présenter des cas cliniques très didactiques. Et on s'est dit, mais ouvrons ces RCP aux auditeurs intéressés. Et nous avons ouvert ces RCP aux membres de la filière. Et chaque RCP, eh bien, en moyenne, il y a 8 à 10 auditeurs libres qui se connectent et qu'on peut identifier. Bien sûr, tout le monde ne peut pas se connecter sur l'outil CISRA utilisé en cancérologie qu'on utilise nous pour les RCP. Quand quelqu'un se connecte, eh bien, il va recevoir une invitation pour entrer dans la salle après présentation de son nom. Eh bien, une dizaine assistent de façon libre à ces réunions de concertation pluridisciplinaire, peuvent éventuellement poser des questions par chat pendant que les experts discutent le cas. Et nous avons fait valider cet enseignement, finalement, cette formation continue en RCP tout récemment sur Lille et sur Lyon. Cette RCP donc valide la DPC pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est aussi une autre façon, quelqu'un parlait tout à l'heure, hein, que les RCP pouvaient être aussi des outils de formation et de DPC. Eh bien, voici un exemple et ça marche. Fort de cette expérience nationale, je me suis dit avec Jean Sibilia et Xavier Mariette, mais tentons d'exporter notre savoir-faire à l'Europe. Et en Europe, sur les maladies rhumatismales et inflammatoires et auto-inflammatoires, il y a une société savante qui s'appelle l'ELAR, European League Against Rheumatism. Et nous sommes allés tenter de convaincre la commission pédagogique de l'ELAR. C'était dans les années 2002-2003. Et ils ont été attentifs à cette expérience française et ont dit « Ok, allons-y ». Et nous avons, avec l'ELAR, créé différents enseignements en ligne exactement sur la même structure, sur la même base que les enseignements français, c'est-à-dire avec une mise au point, avec des cas cliniques, avec des évaluations de modules, avec des banques d'images, avec la possibilité aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut chatter avec l'enseignant et l'enseignant s'engage à répondre dans les 15 jours aux questions qui lui sont posées. Et on a développé ainsi une série de cours. Le premier a été ouvert il y a 14 ans sur les maladies rhumatismales. C'est une sorte de copier-coller de notre expérience française sur les maladies systémiques et rhumatismales. Et puis on a développé un autre sur les connective tissue disease, sur la sclérodermie, sur les ultrasons pédiatriques, pour les professionnels de santé, health professionnels, les infirmières, les aides-soignantes, etc., les kinés, sur l'imagerie. Un cours sur le lupus qui est en préparation. On est en train d'en faire un sur l'éducation thérapeutique du patient qui aura 4-5 modules. Avec l'ELAR, c'est une expérience assez fantastique. Là, on utilise une plateforme qui était une plateforme privée, qui maintenant est une plateforme Microsoft. On a parlé de différentes plateformes, de Moodle, autres. Différentes plateformes sont possibles et fonctionnelles. On utilise maintenant Microsoft. Vous la verrez, je vous ferai une petite démonstration de quelques minutes qui marche bien. On essuie quelques plâtres avec Frédéric parce que c'est la première année qu'on l'utilise. Qui marche bien, mais qui amène quelques commentaires quand même que je vous apporterai. Ces diplômes, c'est une expérience fantastique parce que à l'entrée universitaire septembre 2018, nous avons eu 2063 étudiants qui se sont inscrits à notre formation sur nos différents diplômes. Donc à nous tout seuls, on est une grosse université ou une université qui tient bien la route. Cet enseignement se veut le moins cher possible. On n'a pas souhaité faire de l'argent et le LAR non plus ne souhaitait pas faire de l'argent avec ça. Donc ça fonctionne à prix coûtant. L'étudiant payait jusqu'ici 100 euros pour s'inscrire et le LAR pour chaque étudiant apportait 50 parce que ça coûtait plus que le prix de l'inscription. Là en ce moment, les prix ont monté un petit peu, ils doivent être autour de 120 euros, mais l'équilibre financier n'est pas encore atteint et le LAR met le différentiel. Mais donc 2000 étudiants qui viennent de partout à travers le monde, 2000 inscrits donc en 2018 et plus de 5000 au total parce que les enseignements peuvent se faire sur 2 ou 3 ans. L'étudiant a le choix du temps qu'il prendra pour faire cet enseignement, mais pas plus de 3 ans pour les enseignements de 2 ans et pas plus de 2 ans pour les enseignements d'un an. On a donc actuellement plus de 5000 étudiants qui sont inscrits en cours de formation et voilà notre classe. La classe, je le dis souvent, notre classe c'est le monde entier. Nous avons des étudiants de partout à travers le monde. Une grosse concentration en Europe, bien sûr, mais une très grosse concentration en Inde. L'Inde est très, 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 très demandeuse de ce type de formation. Il faut dire qu'ils sont 1 milliard. Donc, ils sont au top des inscrits. Si vous regardez le top 10 des pays qui sont inscrits à ces enseignements en ligne, eh bien, nous avons l'Inde, UK, Espagne, Hollande, Italie. Quelqu'un qui est aux toilettes. Ça m'est arrivé une fois, ça. Je peux vous dire que c'est drôle. Quelqu'un est parti avec son micro et puis il est aux toilettes. C'était un fou rire qui a duré quelques minutes. La France, Germanie, Irlande et puis les États-Unis. On est en train de couvrir tout doucement d'atteindre le marché américain avec un outil pas cher et puis qui est de très haute qualité parce que on a pris aussi le choix de choisir des médecins experts d'Europe et parfois un petit peu en dehors de l'Europe pour faire ces cours avec une rotation. L'idée, c'est de prendre un médecin référent du cours qui choisit un junior. C'est son junior qui prépare le cours et qui est validé par ce qu'on appelle le lead auteur. Et puis, il y a un senior qui fait une validation finale. Et tous les 3 ans, il y a une rotation de ces enseignants. Le lead devient le senior. On choisit un nouveau lead qui choisit un nouveau junior pour apporter une dynamique aussi et puis des idées fraîches toutes les 3 années. Ce qui nous permet d'ailleurs tous les 3 ans de publier un textbook papier qui a aussi beaucoup de succès parce qu'il ne faut pas croire que l'enseignement en ligne est le seul qui est prisé. On aime encore avoir un document papier en main, même si on fait l'enseignement en ligne. Et puis ça, je crois que c'est l'avant-dernière. Tout ça m'a amené à me dire, mais bon sang, avec tous ces enseignements, peut-être qu'on peut en faire quelque chose et peut-être ça peut apporter des crédits à des étudiants qui ont envie de faire un master. Je suis en train de travailler avec ma faculté pour la création d'un master européen de santé sur les connectivités et les maladies systémiques auto-immunes. Alors c'est un travail un petit peu compliqué. Surtout que notre parcours santé n'existe pas à Lille, mais bon, à force de travail, on y arrivera. Et l'idée était de se dire ceci, on peut créer un master. Vous savez que les étudiants en médecine, quand ils arrivent en 6e année de médecine, ils valident 30 crédits ECTS. Et avec les différents examens en ligne, avec les différents enseignements en ligne et les différents enseignements présentiels de l'IELAR, j'ai pu construire un programme sur 2 années, Master 1, Master 2, qui permet d'aller jusqu'au total de crédits de 120 crédits ECTS pour valider un master. Et donc ça, c'est donc encore un projet pédagogique qui peut se faire sur la base du e-learning et que je voulais partager avec vous. Et ça devrait démarrer septembre 2019, ce ne sera pas possible, mais ça devrait démarrer en septembre 2020. Alors je vais vous faire voir, il nous reste 4-5 minutes, on va garder quand même quelques minutes de discussion. Ça c'était la chambre numérique, la classe numérique de Strasbourg, où l'étudiant se connecte, identifie un mot de passe, ça c'est pour notre enseignement de médecine, non pas de médecine générale, pour notre DU maladies rares en partenariat avec la Fondation. Donc les classes virtuelles, vous les connaissez, hein, donc l'étudiant retrouve ses archives, son bureau, sa formation, la formation de sa semaine. Il peut poser des questions s'il veut. Donc ça, c'est la classe de Strasbourg. Nous faisons aussi, je vous ai parlé de la filière FI2R que je coordonne avec Alexandre Bello, un pédiatre. Nous faisons aussi beaucoup d'e-learning. Une de nos missions, c'est l'information médicale continue. On fait des webconférences qui ont lieu tous les mois sur des thématiques de notre filière. Et par exemple, si on regarde un des derniers, Véronique Engend, qui a parlé d'un sujet très très complexe qui concerne les TRAPS, les maladies auto-inflammatoires, eh bien, on a donc, elle est filmée dans son bureau, on fixe un rendez-vous avec elle, une équipe se déplace pour la filmer. Le studio d'enregistrement, c'est une solution. Certains l'utilisent, mais c'est pas toujours facile pour tout le monde d'avoir accès à un studio. Tout le monde n'a pas la chance. Donc, on a une équipe qui peut venir filmer les webconférences. Il y a du son que vous n'avez pas. Mais donc, il y a là Véronique Engen. On divise en petits morceaux. On s'est rendu compte que mettre des films qui durent 40 minutes, c'est pas bon. L'étudiant se connecte et laisse tomber. Donc, il faut segmenter, couper, faire du court, du 5 à 10 minutes. Et maintenant, toutes les présentations sont découpées en 5-10 minutes. Les étudiants, sur leur téléphone, ils ont 5 minutes dans le métro, 5 minutes dans le train. Eh bien, ils regardent des morceaux de ces webconférences qui ont un succès fou. Bon, sur des thèmes comme le TRAPS, il y a plus de 400 connexions qui ont été faites. Sur un sujet comme le B7, plus de 4000 connexions qui ont été faites en France et à travers le monde. Alors ça, c'est le site de notre filière. Et je vais vous faire voir rapidement l'outil qu'on utilise, Microsoft, avec un petit commentaire. Alors ça, maintenant, Frédéric connaît bien Frédéric Lyoté parce qu'il est convenor et on travaille ensemble sur cet outil-là qui à chaque fois se présente en allemand. Hein. Il faut faire toujours une traduction parce que c'est Suisse et Zurich et il parle allemand là-bas. Voilà. Et on utilise Teams. Et c'est bizarre, mais il n'y a pas Teams là. S'il est en bas, vous le voyez? Je ne le vois pas. Ah, c'est Tim. Ah ouais, très bien. Ouais. Très bien. Et donc, comme je suis coordonnateur, j'ai accès à tous les cours, je vois tous les cours, je vois ce que font tous les conveneurs. Alors, Microsoft est une plateforme pratiquement gratuite, comme Moodle. Et donc, c'est très attractif. Sauf qu'il faut que ça fonctionne, tout ça. Et pour faire fonctionner tout ça, eh bien, il faut embaucher du personnel. Et donc, le LAR a pris cette option de Teams parce que c'était une plateforme gratuite avec de nombreuses possibilités. Mais pour faire fonctionner cette plateforme, il a fallu embaucher 3 personnes. Et au prix du personnel en Suisse, je peux vous dire que finalement, le coût, eh ben, il n'est pas moins cher que ce qui était fait avant avec une société privée. Donc, je pense que dans la réflexion des outils gratuits, il faut aussi penser à ça. Parce que j'utilise aussi Moodle, je vous ai dit, donc on a différentes plateformes qu'on utilise et Moodle c'est très bien, et l'île à Moodle c'est très bien, mais il faut le personnel derrière pour faire fonctionner ça. Et il y a des secrétaires universitaires qui connaissent rien à Moodle. Et quand vous avez formé une secrétaire universitaire qui connaît tout à Moodle, hop, elle part, et puis une autre arrive, et puis il faut tout recommencer, et c'est très compliqué. Et donc je pense qu'il faut avoir ça en tête, et je pense qu'il faut que dans nos universités, on ait vraiment du personnel professionnel et une cellule exprès pour ça, et là, ça marchera. Bien. Bon, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais c'est compliqué, quoi, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, donc ici, la configuration est plus tout à fait pareil, activité téléchargée. Non, c'est pas là. Je voudrais sortir de ce cours, enfin. Ah oui, là, c'était un cours que je voulais vous faire voir, qui est un cours de radio, en fait, avec des objectifs, avec beaucoup d'imagerie, et puis, enfin voilà, c'est comme ça que je voulais. On va arrêter là parce qu'il est 11h59, et on voudrait laisser quelques temps aux questions, peut-être à l'un et l'autre. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, et c'est un vraiment très bel exemple de développement et de réussite de e-learning, hein. Y compris en plus ça ouvre la thématique de cet après-midi sur l'international. Donc j'avais une question, mais j'ai eu la réponse, est-ce que c'était validé DPC? Donc je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont validés DPC. Comment vous faites pour la présence? Parce que nous on rencontre le problème de la signature, de la vraie signature, de la feuille de signature pour la présence.
Elle est validée à la connexion et à la validation des pré-tests et post-tests, c'est
ça,
tout.
Et ça leur suffit.
Ouais.
D'accord.
Ouais. L'adresse IP peut être un élément, oui, bien sûr. Ouais. Ouais.
Je peux apporter un petit complément. En fait, il y a actuellement un travail qui est effectué par différentes universités, en particulier l'université du Mans et de Caen, autour d'un petit logiciel, un plugin qui va s'intégrer dans Moodle, qui s'appelle AttestToodle, qu'on est en train de tester à l'université de Nantes également, qui va permettre de sortir de manière la plus automatisée possible les attestations de présence des personnes qui sont connectées. Et donc, ça facilitera aussi le travail administratif. Parce que nous aussi, on récupère les connexions. Mais c'est vrai qu'après, il y a un travail de mise en forme, etc., des attestations et de vérification. Là, ils sont en train de travailler sur quelque chose qui va être automatisable.
Moi, j'ai une question à poser au sujet du master et de la validation d'une épreuve en ligne. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'un questionnaire avec une validation du candidat qui dit « c'est bien moi et je suis bien tout seul et je ne vais pas tricher » peut vraiment suffire pour valider une épreuve et un diplôme tel qu'un master? Parce que, et puis question subsidiaire, vous nous avez dit qu'il y avait 4 étudiants qui faisaient leurs épreuves ensemble régulièrement, vous les avez dépistés, que leur est-il arrivé réellement?
On leur a dit c'est pas bien.
Voilà, et vous nous avez dit que ce qu'on leur disait, c'était ce qu'ils signaient, c'était plus d'inscription pendant 5 ans. Donc ma question prend un intérêt, je trouve. Est-ce que vous pensez vraiment que pour l'enseignement, c'est un très très bel outil et tout ce que vous avez développé, c'est franchement très intéressant et ça doit être un exemple pour d'autres disciplines. Maintenant, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut organiser un diplôme validant purement en ligne pour ce qui est de l'épreuve?
Alors c'est une question qui nous est souvent posée, évidemment. Ça, c'est une vraie question, bien sûr. La réponse qu'on apporte à cela, c'est que cette charte sur l'honneur, on l'a établie après avoir identifié qu'il pouvait y avoir des tricheries qu'on n'aurait pas imaginées. Ce qui a permis de convaincre nos instances universitaires, c'est que ce n'est pas un diplôme de docteur qu'on leur donne. C'est une formation complémentaire. Certes, c'est un diplôme universitaire, mais c'est une formation complémentaire qui ne va pas leur permettre de facturer plus leur consultation, qui va juste leur permettre d'accéder, d'acquérir des connaissances complémentaires. Et s'ils veulent faire, à la limite, valider leur examen par quelqu'un d'autre qui serait un spécialiste qui connaît le sujet, bah, tant pis pour eux. Mais leur objectif initial, c'est la formation complémentaire. Et donc, c'est en cela qu'à la réflexion, nos universités ont dit « OK ». Ensuite, pour le master, oui, j'allais aborder le master. Le master, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Et c'est pourquoi on ne se satisfera pas des examens en ligne, bien entendu. Ce sera beaucoup, beaucoup plus strict que ça. Il y aura des obligations de présence de 6 mois dans un stage d'immersion validé par la communauté européenne Centre Maladies Rares. Et puis, il y aura production d'une thèse à l'issue qui permettra de valider tout le parcours. Ouais.
Merci beaucoup.
Pour revenir sur l'aspect sécurité, dans certaines entreprises, les banques, l'industrie pharmaceutique, ils couplent le téléphone portable au PC. Ce qui fait que pour pouvoir rentrer dans le système, il faut valider avec son empreinte digitale, comme pour vos applications bancaires personnelles. Vous validez, c'est transmis au PC, et donc ça valide bien que c'est vous qui êtes sur cette... Ça n'empêche pas toutes les fraudes, mais c'est quand même un élément... En tout cas, d'authentification.
Ouais.
C'est en train d'évoluer parce que nous sommes pilotes pour notre université pour tester un système de passage d'examen en ligne. Donc je pense que ça va évoluer dans les années à venir d'un point de vue de la sécurité. Ça avait été évoqué quand il y a eu la grève dans les universités l'année précédente. Mais en tout cas, notre université nous a demandé de tester un nouveau système. Alors, ne me demandez pas les aspects techniques.
C'est avec justement des caméras. Excusez-moi. Justement, c'est avec des caméras qui permettent d'avoir en visuel devant, parce que l'ordinateur a la caméra, et puis avec son téléphone portable, de pouvoir le mettre à l'arrière de soi, et qui a une vision, on va dire, suffisamment large au niveau panoramique, pour voir qu'il n'y a effectivement personne à côté. Ben, voilà. Après, Il y a toujours des tricheurs, il y en aura toujours. Ouais. Mais comme vous dites, à un moment donné, c'est aussi des professionnels qui viennent toujours se former et acquérir de nouvelles compétences et connaissances. Donc, voilà.
Et puis, je pense que tricher, ça peut faire partie du jeu, quoi. Tricher, c'est chercher une connaissance quelque part et c'est permettre d'améliorer ses connaissances.
Oui, justement, sur les examinations à distance, il y a la plateforme FUN qui utilise un prestataire qui, effectivement, permet d'avoir, finalement, un surveillant à distance et avec, comme seule contrainte pour la personne qui va être évaluée, d'avoir une webcam connectée. Mais après, c'est vrai que ces modalités-là ont un coût et que... Moi, j'espère qu'on arrivera à mettre en place la même chose pour les examens en ligne, parce que c'est effectivement une contrainte forte pour les personnels soignants de devoir se déplacer pour venir à un examen. Et peut-être qu'on peut imaginer des modalités qui permettent la discussion qu'on avait eue tout à l'heure, c'est-à-dire qui permettent en fait d'évaluer la personne vraiment par rapport à ce qu'elle a appris et en la mettant dans une situation qui fait que même avec toute la documentation autour d'elle, au final, on évalue bien ce qu'elle aura retenu et le fait d'avoir cette documentation ne change rien à la pertinence de l'examen.
Une dernière petite question.
Comment ça coûte combien pour mettre un DU en ligne ? Pour faire un DU en ligne, et est-ce que c'est possible de les payer sur plusieurs années parce qu'on n'a pas le retour sur financement la première année? C'est du pratique.
Je peux répondre, mais... Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors c'est un sujet que je connais bien, bien sûr. Alors tout dépend avec qui on travaille. Nous travaillons donc soit avec Moodle, notre université, soit avec une structure privée, soit avec une autre structure privée qui est en Suisse. Le coût moyen d'un diplôme interuniversitaire, 30 modules, sur un an est à peu près aujourd'hui autour de 14 000 euros, ce qui est tout à fait raisonnable, tout à fait raisonnable. Au départ, c'était autour de 30 000 euros quand on a commencé cet outil, c'était 30 000 maintenant, donc autour de 14 000. On travaillait avec l'industrie, c'est-à-dire qu'on demandait à l'industrie de financer. Ça nous gêne beaucoup, évidemment, et on a cherché des façons autres d'obtenir des financements. On arrive maintenant, pour les enseignements qui se font avec une structure privée, pratiquement à auto-financer grâce aux inscriptions. Bon, nos universités nous retirent 50%. Je n'utilise pas un autre. Alors, 50% pour des frais de structure, c'est-à-dire les amphithéâtres nettoyés par terre, mais... Voilà, qu'on n'utilise pas, c'est un peu fort quand même. Donc je voudrais vous sensibiliser à ça aussi, s'il y a donc des doyens dans la salle, ou je ne sais pas, il est parti.
Est-ce que le Moodle est gratuit? L'utilisation alors, du Moodle est gratuite?
Alors, le Moodle est gratuit. Alors, on arrive maintenant à s'autofinancer pour les plateformes privées grâce aux inscriptions, grâce aux 50% qui restent, enfin pas complètement, parce que 50% l'université, 30% la fac, donc il nous reste 20%, on arrive quand même à peu près. Et puis le CRI, les sociétés, une société savante nous aide, et donc on arrive pratiquement à l'équilibre maintenant pour Moodle. Pour Moodle, c'est gratuit. Donc c'est tentant bien sûr de transférer tout sur Moodle. C'est gratuit, mais il faut du temps de secrétariat et universitaire de secrétariat. Donc nous avons la chance d'avoir un mi-temps universitaire secrétaire qui aujourd'hui arrive à assurer le suivi. Mais je pense, on a eu une réunion tout à l'heure, j'estime que c'est à peu près un 0,3 ETP de secrétaire par diplôme. C'est-à-dire qu'une secrétaire est saturée avec 3 diplômes. Donc il faut que les facultés, les universités se donnent les moyens pratiquement d'une secrétaire pour 3 diplômes par Internet pour s'assurer que tout fonctionne bien. Avec ces moyens-là, ce sera parfait. Mais donc ça représente un coût pour la faculté et l'université, bien sûr.
C'est 14 000 euros toutes les années, tous les ans, ou c'est 14 000
oui.
euros, après il y a la maintenance?
Ah ouais, c'est 14 000 tous les ans. Parce qu'il y a des remises en ligne, des suivis. Oh, il en faut au moins 150 quand même. Ouais. 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 C'est lui qui supporte le reste. Les recettes sont en fonction du nombre d'étudiants. Et donc pour que ce soit viable, il faut 150 étudiants.
En fait, le tarif, il n'est pas, en tout cas chez nous, il n'est pas adaptable en fonction du nombre d'étudiants. On prévoit un tarif, on a un prévisionnel d'inscrits, et donc on fixe le tarif. Mais si on a deux fois moins ou deux fois plus d'inscrits, ben,
Chez nous, c'est un préfixe aussi, sauf que c'est nos limites. Nos limites. Par email, on peut en mettre 1000 s'il faut. Hein. Le diplôme de l'ELAR, vous voyez, on a 5000 étudiants et ça fonctionne bien. Mais c'est un fixe. Mais on a voulu, nous, sur l'île, mettre des prix bas pour attirer les médecins à la formation médicale continue. Donc c'est 350-400 euros le diplôme. Et puis à l'échelon de l'Europe, c'est 120 euros. Oui.
Merci. Vous avez montré des images de monde virtuel avec le bureau de l'étudiant, etc. Mais l'étudiant, quand il se connecte, il doit avoir créé un avatar pour rentrer dans ce monde virtuel ?
Non, non, il a juste un code et un lien et il rentre dans ce monde virtuel. Ça doit être possible, à mon avis.
Excusez-moi. J'avais deux questions. D'une part, au niveau du tutorat, parce que j'ai vu qu'il y avait 80 tuteurs pour un DU sur Nantes, donc je voulais savoir comment ça se répartissait en masse salariale, mais en organisation aussi des tuteurs. Qui sont les tuteurs ? Et l'autre question, je l'ai mangée.
Ça reviendra. Alors, ce qui doit être un tuteur, ce qu'on appelle aussi le convenor, ce sont les accompagnants des modules. En fait, ce sont des universitaires. C'est nous, on le fait gratuitement.
Ah oui. Ma deuxième question, c'était pour les DIU. Moi, je rencontre des problèmes par rapport à la plateforme. Donc, j'ai vu qu'il y avait extra doc. Mais est-ce payant ? Est-ce que ça se raccroche à Moodle ?
Alors, c'est un Moodle. En fait, à l'Université de Nantes, on a déployé trois Moodle différents. L'un qui est plutôt destiné à la formation initiale, un autre destiné à la formation continue et un troisième qui est plutôt pour de la gestion de plateformes collaboratives, travailler ensemble, les services, etc. Donc, on a un Moodle qui est dédié à la formation continue. Et c'est nous qui gérons les inscriptions avec la formation, avec le service de formation continue par dépôt de fichiers en fait Excel. Et ça nous permet d'inscrire facilement les gens qui ont un compte avec un mot de passe, et ça leur permet d'accéder à l'ensemble des ressources. Pour répondre à votre question par rapport au tutorat, chez nous aussi, c'est plutôt les universitaires qui assurent le tutorat. Et les fonctions de tutorat là, dans le DU de médecine polyvalente sont plutôt de l'accompagnement pour la... Je n'ai pas beaucoup parlé des récits cliniques. On demande aux étudiants de produire 4 récits cliniques dans le cadre de leur diplôme, donc sur 2 ans. Et les tuteurs sont chargés de faire des corrections, des commentaires par rapport aux récits cliniques qui sont produits par les étudiants. Après, en termes d'animation de plateforme, on a un personnel à mi-temps qui est ingénieur pédagogique et qui travaille sur la plateforme, sur la mise à disposition des contenus et sur le travail pédagogique et de mise à jour avec les enseignants.
Et combien de temps ETP ça vous estimez pour le diplôme ? Ça vous prend ?
Alors là, la personne qui est arrivée travaille, c'est Estelle dont je parlais tout à l'heure. Elle est à mi-temps sur le DU de médecine polyvalente.
À mi-temps pour un DU.
Oui. Et il y a effectivement aussi dans les temps administratifs qui sont effectivement rajoutés. Mais sur ce mi-temps, elle accompagne aussi les enseignants sur la conception pédagogique.